Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Matières premières et tensions géopolitiques, la détérioration des relations sino-américaines et américano-européennes, l'accroissement des tensions entre les États-Unis et l'Iran, entre les États-Unis et Cuba, les conflits ouverts du Proche-Orient au Venezuela en passant par l'Algérie, la Libye, la croissance moins forte un peu partout dans le monde, à l'exception peut-être de l'Inde, autant de fractures qui affectent le pétrole et le gaz naturel, les produits agricoles, les minerais et les métaux et remettent en cause les règles mêmes du jeu du commerce mondial. Faut-il y voir les prémices d'une nouvelle crise économique ? Pour en parler, nos invités. Philippe Chalmin, professeur à l'Université Paris-Dauphine, directeur du rapport Cyclope, les marchés mondiaux 2019, paru aux éditions Economica et auteur d'une brève histoire économique d'un long 20e siècle aux éditions François Bourin. Bonjour.
Bonjour.
Yves Gégourel, maître de conférence à l'Université de Bordeaux, co-directeur adjoint de Cyclope. Yves Gégourel qui est en duplex avec nous depuis France Bleu Gironde. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-François Dimelio, directeur d'Asia Centre et de la publication Asia Trends. Bonjour.
Bonjour.
Je le disais, tensions américano-iraniennes qui n'ont cessé de s'aggraver depuis le retrait américain du JCPOA et l'accord sur le nucléaire iranien il y a un an. Escalade de tensions entre Pékin et Washington avec fort impact sur Wall Street et les espoirs qui se portent désormais sur la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump en juin prochain lors du sommet du G20. Vous le dites en introduction du rapport Cyclope, jamais le monde n'a été aussi instable qu'il s'agisse des marchés d'échange, des produits financiers et bien sûr des matières premières. Vous parlez, Philippe Chalmin, d'illusions perdues. Est-ce que nous n'avons pas plutôt fait l'autruche ? Autrement dit, est-ce que nous ne sommes pas en train de nous réveiller après avoir laissé le boulevard que nous avons laissé, en particulier à la Chine ?
Je reste quand même sur cette idée d'illusions perdues, parce que c'est vrai que ces deux, trois dernières années, la mémoire de la crise de 2008 commençait à s'estomper gentiment. La croissance économique reprenait. Certes, il y avait eu un renversement sur les marchés de matières premières, mais tout ceci restait supportable. Les pays émergents continuaient à émerger. Alors d'accord, la Chine occupait de plus en plus de place, mais tout ceci allait relativement bien et le monde semblait même sur la voie d'une certaine forme de gouvernance, qu'elle soit climatique, qu'elle soit économique, etc. Donc oui, nous avons cru, peut-être de manière beaucoup trop optimiste, en une sorte de mondialisation heureuse. Mmh. Et là, depuis quelques mois, le réveil est cruel, que ce soit du point de vue macroéconomique, avec manifestement un ralentissement de la croissance, pas partout, mais de véritables crises dans nombre de pays émergents, avec des crises aussi assez profondes sur un certain nombre de marchés de matières premières, qu'il s'agisse du sucre, qu'il s'agisse du caoutchouc, qu'il s'agisse des produits de l'énergie, qu'il s'agisse d'un certain nombre de minerais et métaux, etc. Et puis avec, bien entendu, la fin de toute forme de multilatéralisme, le retour de la diplomatie de la canonnière, des tensions géopolitiques et géopolitiques militaires dures, comme vous l'avez souligné, dans le Golfe, et une véritable guerre commerciale que Donald Trump a déclenchée vis-à-vis, certes de la Chine, mais presque vis-à-vis du reste du monde. Donc c'est vrai que nous avons là un atterrissage très douloureux, on ne parle plus de mondialisation heureuse, on parle de conflit, et c'est là où le lien avec Cyclope est assez évident, c'est que chaque fois que ça bouge quelque part, chaque fois qu'il y a des tensions, c'est sur les marchés de matières premières que nous sommes véritablement en première ligne, qu'il s'agisse bien sûr du pétrole, mais cette année du soja, de la viande de porc, du colza, de l'acier, de l'aluminium, et pratiquement de toutes ces matières premières que nous couvrons, de l'ananas au zirconium.
On reviendra sur toutes ces matières premières. Yves Gégourel, un commentaire sur les illusions perdues ?
Écoutez, je pense qu'il y a deux horizons lorsque l'on parle d'illusions perdues. Il y a effectivement ces logiques de long terme qu'évoquait Philippe autour de la mondialisation, cette mondialisation qui était installée. Et on voit bien aujourd'hui qu'elle est menacée par les velléités, enfin plus que les velléités d'ailleurs, de Donald Trump et les réactions des pays partenaires. Sur une logique de plus court terme, j'avais personnellement peu d'illusions. Les cours des matières premières, en tout cas les minerais et métaux, se sont largement effondrés jusqu'en la fin de l'année 2015, début de l'année 2016. Et on a vu un très fort rebond Et il me semble que ce rebond était lié à une forme de soulagement, de respiration, avec derrière une croissance économique qui pouvait repartir, mais des problèmes structurels qui étaient toujours là, notamment sur l'évolution macroéconomique de la Chine. Et donc il me semblait que ce rebond était un peu excessif, trop vite, trop fort, et puis j'écrire à ce sujet. Et le repli qu'on a observé sur le second semestre 2018 sur de nombreux minerais et métaux, mais également sur l'énergie, sur les produits agricoles, ne m'a guère surpris.
Jean-François Di Miglio, la grande question géopolitique de cette année 2019, c'est vraiment la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.
Oui, alors je voudrais rebondir justement sur cette question que vous avez posée. Est-ce que c'est un bon titre, illusion perdue ou pas, et se dire que quand on dit illusion perdue, en fait, on se dit ce sont les illusions de l'Occident qui ont été perdues, et c'est un petit peu ça que vous remettiez en question. Mais vous savez, en 2018, il y a un certain nombre d'illusions chinoises qui ont été perdues aussi. Et l'illusion principale de la Chine, c'était, si je peux dire, qu'elle allait pouvoir... pour parler un peu vulgairement, se faire l'Occident. Et elle s'est réveillée de façon un petit peu brutale en se disant que ce ralentissement qu'elle avait prévu de gérer au mieux, avec ses armes qu'elle maîtrise parfaitement parce que son économie est dirigée, planifiée, eh bien, elle pouvait quand même être aussi contredite par des éléments extérieurs. Et l'illusion qu'on retrouve dans pas mal d'écrits chinois, de think tankers, d'académiques, que finalement l'ascension de la Chine était inexorable, et d'ailleurs était illustré par le grand projet de la route de la soie, eh bien ça c'est une illusion qui, si elle n'est pas perdue, se dégrade à toute allure. Mais vous avez tout à fait raison, l'année aura été marquée, effectivement Cyclope le rappelle date par date, par l'ouverture de ce qu'on appelait guerre commerciale, un peu par exagération jusqu'à ces jours-ci, parce que c'était, on va dire, une discussion un peu tendue. C'est en train de se transformer en réelle guerre commerciale, le dernier acte étant effectivement l'acte extrêmement offensif sur l'interdiction d'exporter des composants essentiels à l'industrie du téléphone et des infrastructures de télécom de Huawei.
C'est cela. Alors ça remonte au 15 mai dernier, c'est-à-dire il y a quelques jours. Les hostilités entre Pékin et Washington qui franchissent une nouvelle étape. Donald Trump signe ce fameux décret interdisant aux entreprises américaines d'utiliser des équipements de télécommunications vendus par des entreprises étrangères présentant un risque pour la sécurité nationale. Une mesure qui ne fait pas explicitement référence à Pékin, Philippe Chalmin, on l'a bien compris, mais ça revient de facto à exclure les groupes chinois tels que Huawei et ZTE du marché américain. On a l'impression que l'engrenage entre les États-Unis et la Chine est sans fin.
Oui, alors il est largement lié quand même aux objectifs que poursuit Donald Trump. N'oublions pas que Donald Trump, il a un objectif clair, sa réélection.
Et donc, en 2020.
Il se trouve qu'il est à la tête d'un pays qui est pratiquement le seul pays au monde aujourd'hui à ne pas nous inquiéter du point de vue économique, à avoir, je vous rappelle qu'au premier trimestre de cette année, l'économie américaine a roulé à 3,2%, que le chômage est tombé à 3,6%, le niveau le plus bas depuis la fin des années 60. Donc on retourne presque aux 30 glorieuses, grâce, il faut le dire, au fait que les États-Unis soient toujours au cœur de la troisième révolution industrielle, essentiellement celle des technologies de l'information, et d'autre part, que les États-Unis connaissent une révolution énergétique. Je pense qu'on en dira un petit mot quand on abordera le chapitre pétrole, bien entendu. Mais Donald Trump, il a besoin d'être réélu. Il s'est un peu cassé les dents avec le jeune Kim en Corée, qui manifestement a préféré aller s'épancher sur le sein de tonton Vladimir et de tonton Xi, donc des Russes et des Chinois. Vis-à-vis de la Chine, il a largement ouvert les hostilités, même si je continue, je ne sais pas ce que Jean-François en pense, je continue à penser que d'un côté comme de l'autre, ils arriveront à trouver d'une manière ou d'une autre une paix des braves. L'année dernière, si Jean-François s'en souvient, il y a eu l'affaire ZTE. Et puis au dernier moment, Xi avait téléphoné à Donald et... la sanction contre ZTE s'était transformée en une amende de quelques milliards de dollars. Je continue à penser que, d'une manière ou d'une autre, il y aura probablement, alors peut-être au Japon au mois de juin, où ils vont se rencontrer, nos deux...
Pour le G20
Pour le G20, peut-être. Je continue à penser qu'il y aura une paix des braves. que par contre la situation en Iran est beaucoup plus difficile, même si là aussi on peut imaginer que les Iraniens savent probablement jusqu'où ils ne doivent pas aller. Et paradoxalement, je m'attends à l'automne à ce que l'ire trumpienne et que les tweets s'attaquent au véritable ventre mou qu'est l'Europe. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, ce qui est fascinant, c'est que en dehors des équipements électroniques de Huawei, etc., l'impact sur les matières premières, je vous en donne un exemple, c'est le Canada qui avait arrêté et mis en résidence surveillée la fille du fondateur de Huawei. Eh bien, curieusement, la Chine n'importe plus de colza canadien, pour des risques sanitaires, bien entendu, que je n'imagine pas contester. Et comme par hasard aussi, la Chine ne va pas importer de petites carcasses de cochons canadiens non plus, parce qu'il est bien connu que celles-ci sont dangereuses pour la santé des Chinois.
C'est la loi du talion absolu. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez réagir, Yves Jégourel, ou je passe la parole à Jean-François Dimélio, mais alors tout de même, on parlait de la bonne santé des États-Unis grâce aux nouvelles technologies, grâce aussi aux énergies, mais cette guerre commerciale, il y a bien un moment où elle va finir par affecter les consommateurs américains avec l'augmentation des tarifs douaniers, Yves Jégourel.
Je crois qu'il faut dire que ça affecte déjà certains secteurs d'activité américains. La guerre commerciale a débuté finalement avec l'acier et l'aluminium, mais je voudrais aller dans le sens de ce qu'évoque Philippe au niveau des élections américaines. Il y a une dimension symbolique extraordinairement forte dans l'acier qui explique la décision de Trump, mais ça, un certain nombre de secteurs américains consommateurs d'acier et consommateurs d'aluminium ont déjà commencé à le payer parce que la réaction de la production américaine qui aurait dû augmenter pour compenser ça ne l'a pas fait. Donc il y a eu une augmentation des tarifs.
Alors Jean-François Dimélio, une paix des braves entre les Américains et les Chinois ?
Comme beaucoup d'observateurs qui sont soit centrés sur les pays occidentaux, soit centrés sur les pays asiatiques, en particulier la Chine, j'ai totalement exclu pendant très longtemps le scénario du no deal. Il faut choisir un scénario, donc le scénario majoritaire pour moi reste ce que Philippe a énoncé. Je commence quand même à me poser des questions sur un scénario qui, chez moi, monte en probabilité. Je le chiffre à 10 ou 15% aujourd'hui, mais peut-être peut-il monter encore plus, parce que l'exemple de ZTE, naturellement, est un précédent parlant. C'est tout à fait symétrique. Philippe a raison, c'était les mêmes mesures qui étaient prises. Et Huawei peut espérer encore aujourd'hui s'en sortir. On peut aussi se dire que, dans la tête de Donald Trump, finalement, la course contre la montre est l'inverse de celle que l'on imaginait jusqu'à présent. C'est-à-dire que autrefois, c'était la Chine qui allait vite et les États-Unis qui allaient lentement. Mais Donald Trump, on a l'impression qu'il a peut-être envie de faire une espèce de blitzkrieg, c'est-à-dire d'arriver fin 2019 ou en 2020 avec un no deal. Le blitzkrieg consisterait à faire tomber la croissance chinoise, comme les probabilités chiffrées aujourd'hui nous le disent, à 5% au moins.
Elle est aujourd'hui. Le
discours officiel que tient le Premier ministre a prononcé début mars à l'Assemblée nationale populaire, il est d'ailleurs beaucoup plus flou que d'habitude, puisque contrairement aux chiffres à la décimale, c'est entre 6 et 6,4, c'est le chiffre officiel. Je laisse de côté toutes les contestations qui sont faites par tel ou tel économiste. Patrick Artus est un spécialiste du discount de la croissance chinoise. Jusqu'à présent, moi, je les prends tels qu'ils sont, parce que de toute façon, ça fait un étalon d'année en année. Mais si on considère que ce chiffre de 6 à 6,4 est l'objectif, il est possible que l'on tombe en dessous du fait des sanctions américaines. Ce qui me fait dire ça, c'est que la réponse chinoise, au moment où nous parlons, elle est graduée. Alors forcément, elle est limitée parce que, par définition, la Chine importe moins de produits américains que les Américains importent de produits chinois. Mais pour l'instant, elle est limitée. Et les tarifs qui ont été imposés sur les 60 milliards d'importations venant des États-Unis sont des tarifs gradués qui montrent que la Chine a absolument envie de faire un deal. Ça donne une capacité à Donald Trump de faire durer le plaisir, si j'ose dire, ou même d'arriver à un moment où on se rendra compte que finalement, un 5% est très mauvais pour la situation chinoise. Si c'est encore moins, c'est encore plus mauvais. Alors je ne dis pas que ça va bouleverser la politique intérieure chinoise, mais ça va surtout retarder des réformes qui sont indispensables en Chine. Réforme du système financier, augmentation de la circulation de la monnaie chinoise dans tout l'espace de la route de la soie, et donc contrainte pour la Chine de continuer à utiliser le dollar, et par définition, impossibilité d'utiliser cette arme ultime que l'on voit brandir un peu de façon fantasmatique ces temps-ci, c'est-à-dire la vente des bons du trésor américain. Il y a eu cette vente de 20 milliards ces jours-ci, ça n'est pas la première vente de 20 milliards, cette arme elle est très limitée. Et donc mon propos c'est de dire que, à tort ou à raison, dans la tête de Donald Trump, il y a probablement plus d'armes du côté américain qu'il n'y en a du côté chinois. Et après tout, s'il croit vraiment être dans cette situation, pourquoi arriverait-il à un deal si finalement ses électeurs continuent de lui faire confiance, même si à la fin des fins, sur le soja, il y a effectivement moins de soja qui part en Chine?
Oui, Philippe Chalmin.
Oui, et pour aller tout à fait dans le sens de ce que dit Jean-François, les Washington Insiders disent que le revirement qui a été celui de Donald Trump, largement influencé par les faucons, bien entendu, de son entourage, est aussi lié au fait, n'oublions pas que c'est un joueur de poker, il a l'impression qu'il a un atout majeur, qui est la forte croissance américaine. Donc, il a, lui, aujourd'hui, des marges de manœuvre que Xi n'a pas. Et comme un bon joueur, bah, il cherche à en profiter. Alors, le risque est qu'il surjoue sa main et qu'il se retrouve un peu à découvert.
Yves Gégourel, un commentaire.
Non, écoutez, je ne peux que suivre ce qu'ont dit Jean-François et Philippe. Il faut rajouter quand même dans les contraintes, dans les politiques américaines, la question de la Fed et de l'impact des monnaies, qui aura, à mon avis, un rôle aussi assez important sur les équilibres commerciaux. Je pense que Trump, par nature, dans sa politique budgétaire, doit composer avec ce qui va se passer, avec ce qui se passe déjà en matière de remontée des taux américains et les conséquences que ça peut avoir sur le reste du monde.
Alors, quelques mots sur la stratégie de Donald Trump. On y reste quelques instants. America First, du discours de campagne de Donald Trump, se transforme aujourd'hui en un America complètement alone, Philippe Chalmin.
Oui, c'est pas faux, mais aussi, il récupère le vieux slogan de la deuxième campagne de Reagan, America is back. Et force est de constater que pour l'électeur américain de base républicain et même peut-être un peu démocrate, il a mis un peu à genoux les voisins mexicains et canadiens. Il a obtenu que les Japonais se mettent à la table de négo pour un accord commercial. Il a obtenu la même chose des Européens, malgré les réticences tout à fait justifiées d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, il s'en sort pas mal. Moi, ce qui m'inquiète, c'est à quel moment est-ce qu'il va pas surjouer. Je trouvais sa stratégie sur l'Iran extrêmement intelligente. J'enfonce l'Iran, mais je lui maintiens quand même suffisamment la tête hors de l'eau en autorisant des dérogations pour les exportations de pétrole iranien vis-à-vis d'un certain nombre de clients.
Qui n'ont plus cours aujourd'hui.
Qui n'ont plus cours, mais qui avaient cours, qui avaient surpris les marchés au mois de novembre. Ça permettait à l'Iran de sortir 1,2-1,3 million de barils de jour. Et ça permettait quand même à l'économie iranienne de garder la tête hors de l'eau et aux colombes iraniennes de ne pas être balayées par les faucons. Là, sur l'Iran, n'a-t-il pas poussé la balle trop loin? Et est-ce qu'il ne met pas le doigt dans un engrenage? Bon, il y a la guerre avec la Chine, mais la situation sur l'Iran est quand même relativement dramatique. On l'a vu encore avec ces drones-outils sur des oléoducs saoudiens, ces attaques sur des tankers que personne n'a totalement revendiqué, au point que certains imaginaient même que c'était peut-être les Saoudiens eux-mêmes qui avaient fait ce genre de choses pour aggraver et mettre un peu de sel dans la situation. Mais c'est vrai que, en particulier dans cette région extrêmement sensible, il est quand même un effroyable apprenti sorcier.
Alors, on compare beaucoup, Yves Gégourel, l'accès de fixation aujourd'hui de Washington sur Téhéran, une façon finalement pour les États-Unis de masquer leur retrait du Moyen-Orient, comme ce qui s'est passé finalement en 75 avec le Vietnam. En une minute, vous partagez cette analyse?
Écoutez, vous me prenez un peu de cours sur cette question-là. Je voudrais rebondir sur ce que vous évoquiez à propos de Trump alone. Moi, je ne crois pas à ça. Je pense qu'il faut rappeler que Trump a cette horreur du multilatéralisme et qu'il recherche avant tout des deals bilatéraux. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et on voit bien que ce qui le sert avant tout, c'est que son opposition, il n'y a pas corps contre Donald Trump. Et je suivrai assez bien Philippe sur cette question de, finalement, est-ce qu'il ne va pas aller trop loin et est-ce qu'il ne va pas créer, au regard, par exemple, des marchés pétroliers, une forme d'équipe d'acheteurs contre lui. Je le vois assez bien, ça.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Yves Gégourel, Philippe Chalmin et Jean-François Di Meglio dans quelques instants après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Matière première et tension géopolitique, nous retrouvons nos invités Philippe Chalmin, professeur à l'Université Paris-Dauphine, directeur du rapport Cyclope, les marchés mondiaux 2019, paru aux éditions Economica et auteur d'une brève histoire économique d'un long 20e siècle aux éditions François Bourin, en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu Gironde, Yves Gégourel, maître de conférence à l'Université de Bordeaux, directeur adjoint du rapport Cyclope, et Jean-François Di Meglio, directeur d'Asia Centre et de la publication Asia Trends. Nous avons évoqué dans la première partie de l'émission ce bras de fer entre Pékin et Washington qui est vraiment le sujet géopolitique majeur de 2019, peut-être aussi des années à venir. Jean-François Di Meglio, qu'est-ce qui pilote le comportement chinois dans cette guerre commerciale avec les États-Unis ?
Je serais presque tenté de dire la prudence. Et autant Philippe parlait effectivement d'un jeu excessif de Trump qui risquait de le conduire à une forme de perte, je dirais que la Chine sous-joue finalement son rôle, et qu'elle garde, en même temps que cette arrogance qu'on lui attribue très souvent, aussi un complexe. Et le fait qu'elle s'attaque au Canada, bien sûr pour une raison concrète, c'est que Madame Wang, la fille du fondateur de Huawei, se trouve au Canada, le fait qu'elle ait maintenant inculpé 3 Canadiens qui se trouvent en Chine, c'est aussi la preuve qu'elle a une réticence à s'attaquer à ce qui est trop fort, comme si elle craignait du choc en retour. Il n'est pas du tout évident que le choc en retour soit aussi dévastateur que, visiblement, la conduite de la Chine semble l'indiquer. Mais le fait de s'attaquer au Canada, c'est un message qui dit, comme pour l'Europe, qui est un peu le ventre mou aussi de la vision géopolitique que la Chine agite, le Canada, c'est très proche des États-Unis. Si je touche le Canada, c'est comme si je touchais les États-Unis, mais en même temps, je ne touche pas les États-Unis. Alors, on peut interpréter ça comme une espèce de complicité entre deux grands. Moi, j'interprète plutôt ça comme cette tentation de la Chine à toujours aller, non pas là où c'est plus facile, mais là où c'est le plus tendre. Et c'est ce que j'appelle, effectivement, se glisser dans les veines du jade. On sculpte le jade à travers les veines qui sont les plus faciles à tailler, par opposition au cœur le plus dur du jade qu'on n'attaque pas.
Alors, on reparlera de l'Europe avec vous, Philippe Chalmin, mais j'aimerais me tourner vers vous, Yves Gégourel. Il y a évidemment plusieurs fronts dans cette bataille commerciale entre la Chine et les États-Unis. L'un d'entre eux, pas les moindres, l'Afrique. Quelles conséquences ?
Alors oui, il y a plusieurs fronts. D'abord, il y a un front aussi national, il faut le rappeler. L'économie chinoise évolue, mais elle a du mal à évoluer vers un renforcement de la consommation interne pour nourrir sa croissance économique, alors que historiquement, c'est bien évidemment les exportations, l'investissement. Donc l'économie chinoise est finalement stimulée par ses politiques budgétaires et il y a un équilibre à trouver entre cette stimulation et puis une limitation de l'endettement qui a été un problème, même si les nationaux gèrent en partie cet endettement. Et puis, il y a d'autres fronts, vous avez tout à fait raison. Et moi, j'observe que dans le segment des minerais et des métaux, la Chine a profité de manière logique de ce qui s'est passé sur l'année 14 et 15, à savoir un désengagement des groupes occidentaux pour une raison très simple, c'est que ces groupes occidentaux sont pour la plupart des groupes cotés. Et lorsque le prix des matières premières s'effondre, bien leur valorisation boursière chute également. Et donc, ils sont obligés finalement de vendre des actifs pour répondre aux objectifs de rentabilité des actionnaires. Et il est certain que la Chine a beaucoup moins de contraintes dans ce domaine-là et peut afficher des stratégies de long terme. Et on voit que la Chine a racheté un certain nombre de mines et travaille sur cette intégration verticale des filières. La Chine est une très grande productrice de métaux et elle sécurise depuis plusieurs années ses approvisionnements. Je pense à la bauxite en Guinée notamment, je pense à tout ce qui se passe autour du cuivre en RDC et en Zambie.
Alors, on quitte les métaux et les minerais, Philippe Chalmin, les produits agricoles, la guerre commerciale entre Washington et Pékin, toujours elle, première victime de cette guerre, le soja, dont le prix a plongé au plus bas depuis 10 ans.
Oui, alors, victime, disons, objectif majeur, puisque le soja est un des, en dehors peut-être des produits électroniques, est un des principaux postes d'importation chinois en provenance des États-Unis. Donc, quel est le premier produit auquel on pouvait penser lorsque la Chine met en place des batteries de rétorsion aux mesures américaines ? C'est bien entendu le soja. Alors, ça s'est accompagné d'une redistribution du commerce international, puisque il faut rappeler que la Chine importe un tiers du soja mondial. Et rappelez aux auditeurs que ce soja, une fois que vous le triturez, il y a de l'huile et il y a du tourteau. Le tourteau, il est mangé par tous les petits cochons et par tous les petits poulets que mangent les Chinois. Donc c'est quelque chose de fondamental. Ce soja, il venait pour l'essentiel des États-Unis et puis aussi du Brésil et d'Argentine. Donc on a eu une redistribution des flux en provenance du Brésil, ça n'a pas quand même été suffisant. Et puis comme il y a en plus, il y avait eu une excellente récolte américaine l'année dernière de soja, on a vu gonfler les stocks et effectivement l'effondrement des prix. Effondrement, les prix restent à des niveaux quand même relativement soutenus, mais il a fallu par exemple que Donald Trump mette en place un plan d'aide d'urgence pour faire passer une pilule de plus en plus amère à des producteurs de soja qui sont donc des farmers et qui pour la majorité d'entre eux sont des républicains qui votent pour lui.
Alors puisque vous parliez des petits cochons, on va rester ces animaux à quatre pattes pour évoquer la peste porcine qui ravage une bonne partie, alors je ne sais pas si on parle de cheptel,
on parle de cheptel en Chine.
Voilà, et la Chine est donc le pays le plus touché. Et cette peste porcine, elle arrive aussi en Europe. Et la volaille est la grande gagnante de cette...
Oui, alors la peste porcine, donc ça s'appelle officiellement la peste porcine africaine, puisque ça a été découvert au 19e siècle en Afrique. Elle touche de plein fouet la Chine. On estime que entre 10 et 30% du cheptel pourrait disparaître. Pour l'instant, et notamment l'auteur de la partie viande de Cyclope reste mesuré, il ne table que sur 10%, mais cela veut dire quand même une réduction considérable de la production porcine en Chine. Or, les Chinois sont les premiers consommateurs mondiaux. Et donc, que va-t-il se passer? Ils étaient déjà des acteurs importants à l'importation. Ceci va augmenter, et ceci d'ailleurs est extrêmement favorable à une Europe où, pour l'instant, il y a un peu de peste porcine. Simplement, pour la petite histoire, nous avons créé presque une barrière sanitaire à la frontière franco-belge, de manière à ce que la peste porcine, comme le nuage de Tchernobyl, ne passe pas nos frontières. Mais, à la limite, d'ailleurs, sur les marchés agricoles aujourd'hui, qui sont souvent friands de catastrophes climatiques ou sanitaires, c'est la seule vraie crise que nous ayons à nous mettre sous la dent.
Alors, Yves Gégourel, vous évoquiez les minerais et métaux en Afrique. Là aussi, on peut parler de la Belt and Road Initiative chinoise. Pour parler de l'endettement en Afrique, qui est toujours un sujet préoccupant, là aussi, et peut-être je m'adresse également à vous, Jean-François Di Meglio, c'est aussi une affaire chinoise.
C'est une affaire chinoise, Jean-François Di Meglio. D'autant plus que la Chine n'a jamais participé aux travaux du Club de Paris, par exemple. Et que l'une des grandes questions sur l'endettement mondial, avec la conférence qui a eu lieu d'ailleurs à Paris le 7 mai, c'est de savoir comment est-ce que on va gérer cette proportion de plus en plus grande de prêts chinois dans l'endettement mondial et comment est-ce qu'on va gérer les défauts éventuels ou les restructurations d'une façon qui ne soit pas celle qui s'est opérée au Sri Lanka où cette restructuration a tout simplement abouti à une repossession d'actifs sri-lankais, les ports en particulier, le port, mais cette fois-ci des infrastructures portuaires, et naturellement des pratiques qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on a l'habitude de faire lorsqu'on monte un pool bancaire, lorsqu'on se met d'accord entre prêteurs, la Chine continue de jouer son jeu. Et là, ça nous renvoie un petit peu au débat qu'on avait au tout début de notre conversation sur les illusions perdues. Il ne faut pas oublier que dans les illusions occidentales, il y avait l'idée que progressivement, on allait amener la Chine a des standards, y compris des standards financiers occidentaux. Cet endettement dont l'origine est dans les prêts chinois et en particulier en Afrique, il est une double bombe à retardement, je dirais, pour les Africains endettés, mais aussi pour le système financier chinois qui a cette grande capacité à résister tant qu'il est fermé sur lui-même, puisque finalement le système financier chinois, il est étatique. En revanche, le deuxième élément de cette bombe à retardement, c'est effectivement si le système financier chinois est plombé par des dettes extérieures qui ne sont pas remboursées, il y a un moment où la repossession d'actifs a des limites et aussi a des limites dans la gouvernance mondiale, puisqu'on va aller dire à la Chine, vous avez fondé une nouvelle banque, les AIB, vous avez fondé un certain nombre d'instruments de gouvernance, mais on n'est pas tout à fait sûr qu'ils puissent fonctionner. Et ça, c'est un message qu'on essaie d'ailleurs de faire passer aux Chinois quand on leur parle. On n'est pas là pour vous donner des leçons, mais on a pris, nous, de notre côté, un certain nombre de coups. Et on a peut-être des choses à vous dire. Parce que si vous prenez des coups, on en prendra aussi. Et si on vous évite de prendre des coups, eh bien, ce serait peut-être pas mal qu'on travaille ensemble.
Yves Gégourel, vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Jean-François Dumilio ?
Oui, je pense que la question de l'endettement reste, nous nous regardons les dernières années, une problématique néanmoins mondiale. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une question chinoise, il y a une question africaine, mais il y a aussi une question pour beaucoup de pays émergents. Et il faut de nouveau regarder ce qui se passe du côté de la politique monétaire américaine. On a une remontée des taux parce que le quantitative easing se termine, parce que l'économie américaine se porte bien, mais il y a des conséquences sur les autres pays qui peuvent être endettés en dollars, qui peuvent être endettés sur des taux qui sont finalement indexés sur les taux américains. Donc il faut regarder cette problématique-là. Pour ce qui est des économies africaines, parce que finalement, économiquement, l'Afrique est tellement diversifiée, il y a un besoin évidemment de financement de l'émergence africaine. Et cette émergence africaine, à mon avis, elle passe en partie par la valorisation du sol et du sous-sol, et puis elle passe par le développement, c'est une question absolument clé, des infrastructures de transport, des infrastructures énergétiques. Et il me semble que les Chinois ont cette capacité justement à répondre, ou en tout cas avoir le discours adapté pour répondre aux exigences africaines dans ces deux domaines.
Alors, je reprends quelques chiffres que j'ai trouvés dans Cyclope. Depuis début 2019, les cours de bon nombre de matières premières se sont affolés. On a vu plus 35% pour le pétrole, plus 30% pour le fer, plus 13% pour le nickel, 12% pour le zinc et pour le palladium. Tout cela, c'est plutôt des bonnes nouvelles pour l'Afrique en général, même si, comme le disait à l'instant Yves Gégourel, les économies africaines sont différentes les unes des autres. Philippe Chalmin, j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous évoquiez précédemment, c'est l'Europe. On a parlé de la guerre commerciale entre les États-Unis et Pékin, et vous voyez l'Europe comme étant la cible possible des foudres américaines à l'automne prochain. Qu'est-ce qui vous laisse dire cela ?
Écoutez, moi, si je me mettais dans la peau de Donald, pour un moment, je me dirais, quel est l'adversaire que je suis à peu près sûr de battre au poker ? Quel est celui qui, avant même que j'ai claqué des doigts, commencera déjà à se déshabiller ? Manifestement, les Chinois, c'est un peu dur. Puis on dit toujours qu'avec les Chinois, c'est lorsque l'accord est signé que vraiment la négociation commence. Par contre, ces Européens, qui en plus sont désunis, vous remarquerez d'ailleurs qu'un sujet aussi important que le Brexit, nous n'en avons même pas parlé. Mais donc, ces Européens qui sont désunis, dont l'exercice démocratique auquel nous allons nous livrer dans une dizaine de jours risque de ne pas être très très exemplaire, finalement, ils ont l'habitude, comme je le disais, de se déshabiller. Donc ce sera très simple. Je tiens sous la menace les Allemands. S'ils sont pas gentils, je vais taxer leurs automobiles. Bon, le Macron, bon, on peut passer. Il fait de beaux défilés le 14 juillet, ça m'a impressionné. Ça n'allait pas tellement plus loin. Mais donc, dans la peau de Donald, je me dirais que le vrai ventre mou, c'est incontestablement l'Europe, et c'est vers l'Europe que j'attaquerai sur les biens industriels, notamment vis-à-vis de l'Allemagne. Parce que on parle toujours de la Chine, mais qui est-ce qui a l'excédent commercial le plus important sur les États-Unis ? C'est l'Allemagne. Je crois même, Jean-François, que c'est supérieur à celui de la Chine.
Oui, en termes de PIB, alors là, l'Allemagne passe tous les records.
C'est-à-dire, concrètement,
c'est-à-dire que le pourcentage des excédents commerciaux de l'Allemagne par rapport à son PIB a pratiquement toujours été supérieur, sauf à l'époque où la Chine avait 10% d'excédent commercial par rapport à son PIB. L'excédent commercial de l'Allemagne par rapport à son PIB est supérieur à celui de la Chine. Aujourd'hui, l'excédent commercial de la Chine par rapport à son PIB, il est aux alentours de 2%.
Alors, j'aimerais qu'on aborde les questions énergétiques. On en a dit quelques mots rapidement. Le pétrole, $75 fin avril, il est retombé récemment à $70. Le schiste américain qui est sans cesse revu à la hausse, il représentera 70% du brut américain dans 5 ans. Et un autre domaine particulièrement intéressant, Philippe Chalmin, c'est le gaz naturel liquéfié, le fameux GNL.
Absolument. Alors, je me permets d'ailleurs de vous reprendre, parce qu'il me semble que déjà, le pétrole de schiste américain doit représenter les 3/4 de la production américaine de pétrole, puisque Je cite de mémoire, mais la production américaine de pétrole, c'est à peu près 12,45 millions de barils jour. Et il me semble que l'Agence américaine de l'énergie a annoncé une production de pétrole de schiste pour le mois de juin un peu inférieure à 8,5 millions de barils jour. Ce qui, au passage, est extraordinaire, puisque le pétrole de schiste, il n'existait pas il y a 10 ans. Alors, pour l'instant, les États-Unis restent quand même des importateurs nets de pétrole. Ils le seront encore quelques années, et puis à un moment où ils deviendront à l'équilibre, voire excédentaires, ils sont déjà exportateurs de gaz naturel. Et pour moi, une des grandes nouveautés, c'est que jusque-là, on avait un marché du gaz naturel au niveau mondial qui était segmenté du fait des difficultés de transport du gaz, soit des gazoducs, donc continental, soit des méthaniers, mais on avait vraiment un marché américain, un marché européen et soviétique, et russe, disons, et un marché asiatique qui était le marché du GNL. Aujourd'hui, le marché mondial, c'est le GNL, avec un énorme développement, bien entendu, des besoins de la Chine, du Japon, de la Corée. Et là-dessus, effectivement, vous avez maintenant régulièrement des cargaisons de GNL américains qui vont sur ce marché, et vous avez une cotation du GNL en Asie qui commence à devenir la vraie cotation de référence. Vous savez que nous traiterons dans Cyclope les matières premières et les commodités. Le GNL est devenu une commodité, c'est-à-dire un produit coté à l'échelle mondiale, faisant l'objet d'un marché dérivé.
Alors, est-ce que pour l'énergie, il faut s'inquiéter des tensions dans le détroit d'Ormuz ?
J'aurais tendance à dire bien entendu. Là encore, les Iraniens savent quand même aussi jusqu'où ils ne peuvent pas quand même trop aller. Mais le président d'un major pétrolier européen, vous voyez qu'il n'y en a pas quand même 36, nous disait au mois de septembre dernier, où je lui disais alors, on monte à 100 dollars. À l'époque, en septembre dernier, on était dans l'idée, le pétrole sera à 100 dollars en fin d'année. On a terminé l'année à 50, hein, je vous le rappelle. Et il m'avait dit, non, vous verrez, on peut même être à 150, il suffit d'un missile iranien qui rate un tanker dans le détroit d'Ormuz, mais qui provoque une telle panique qu'il n'y aurait plus aucun assureur maritime pour prendre le risque de la couverture d'un tanker dans ces zones. On n'en est pas si loin que cela. Alors, pour l'instant, les marchés, vous avez dit qu'on était à 70 dollars le baril, les marchés sont d'une extraordinaire prudence. Mais nous dansons sur un baril. Oui.
Alors j'en reviens à la première question en introduction de cette émission. Toutes ces guerres commerciales, ces tensions, ces fractures, est-ce qu'elles sont les prémices d'une nouvelle crise économique ? Je vous pose la question, je ne sais pas qui souhaite répondre, Yves Jégourel.
Écoutez, je n'en suis pas certain, je reste optimiste sur l'issue de cette situation. Après, je crois qu'on a un facteur anticipation qui est très net et qui explique, pour ce qui nous concerne dans Cyclope, une bonne partie de la dynamique des marchés. Il faut rappeler que une grande partie des prix se forment sur des marchés financiers et ces marchés financiers sont très très réactifs naturellement à toute bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, ainsi de suite. Donc on a une fébrilité très importante qui est liée justement à cet assombrissement des perspectives mondiales. Je reste pour ma part relativement optimiste.
Jean-François Dimilio, très rapidement.
La caractéristique des grandes crises financières, souvent, c'est qu'elles arrivent là où on ne les attend pas et que, effectivement, si on se réfère à celle de 2008, elle nous a surpris. Ce qu'on a appris depuis 2008, c'est mettre en place un certain nombre de stabilisateurs. On parle de la volatilité des marchés financiers par rapport à ce qui se passe. Les baisses successives de 1,5, de 2,5 des bourses occidentales, c'est finalement une réaction relativement amortie par rapport à ce qui pourrait nous arriver.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Philippe Chalmin, professeur à l'Université Paris-Dauphine, directeur du rapport Cyclope, les marchés mondiaux 2019 aux éditions Economica et auteur d'une brève histoire économique d'un long 20e siècle aux éditions François Bourin. Merci Yves Jégourel, je rappelle que vous étiez en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu Gironde et vous êtes maître de conférence à l'Université de Bordeaux et directeur adjoint de Cyclope. Et Jean-François Dimiglio, directeur d'Asia Centre et de la publication Asia Trends. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée à l'arme nucléaire. À demain.